Et vous, vous êtes artiste?
Est-ce que jouer dans la rue, pour vous, ça veut dire être musicien?
Elle est où la scène? À quel âge vous avez commencé? C'est quoi cet instrument? On peut dire que la musique et vous, c'est un peu comme une histoire d'amour, non? Et toi, tu joues pour qui?
Vous me jouez encore un petit morceau?
Est-ce que vous jouez souvent ici?
Vous jouez jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Corde sensible sur Jet FM. Je suis allée assister il y a quelques semaines à une messe dans le cadre de l'enregistrement d'une émission. J'ai alors été très touchée par la puissance du son qui se dégageait de l'orgue et par toutes les émotions qui m'ont traversée à l'écoute de cette musique. Moi qui ne suis pas croyante, les églises font tout de même appel à un passé familial fort et ravivent des souvenirs de vacances au Mans où mes grands-parents catholiques passaient la plupart de leur temps bénévoles dans les paroisses. Aujourd'hui, avec une oreille nouvelle, mon attention s'est portée sur les musiques de l'église et surtout sur l'orgue. J'ai aimé tendre l'oreille vers cette multitude de sons qui varient d'un style à l'autre et qui m'ont même parfois fait penser à la musique électro. Curieuse de savoir comment ça se passait là-bas derrière, j'ai alors demandé à rencontrer cette personne qu'on ne voit pas mais qui remplit toute l'église de sa présence. Le prêtre m'a donc amené à la rencontre de Florence, organiste femme. Pas peu fière de son titre, Florence m'a raconté l'histoire de son arrière-grand-père, dont une place nantaise porte le nom, la place Paul Ladmirou, qui était un compositeur français de la fin du 19e siècle et élève de Gabriel Fauré. Pour Florence, la musique, c'est donc une affaire de famille. Lors de cette rencontre, je me suis laissée porter par la visite guidée qu'elle mène avec ferveur. Nous sommes allés à la découverte des entrailles de l'orgue, cet instrument imposant que j'ai toujours rêvé de pouvoir toucher un jour. C'est aujourd'hui chose faite.
Je suis à la basilique Saint-Nicolas, à Nantes, et je suis rentrée par la petite porte qui est sur le côté. Je m'approche tout doucement de l'autel et je vois au fond de l'église que Florence est déjà là, assise à l'orgue. Alors on ne la voit pas parce que elle est sur le petit orgue qui est caché derrière l'autel. Mais on la voit au travers des barreaux de l'autel, très discrètement. Il y a une petite lumière qui l'éclaire, qui éclaire son visage. Donc on la distingue un petit peu de loin et elle ne semble pas être toute seule. Elle donne un cours, je crois. Il y a un jeune homme qui est assis à côté d'elle et qui semble l'écouter très attentivement. Je pense que Florence donne un cours. Je vais aller voir ce qu'il en est.
Et ton sol là-bas au pied? Mais il faut faire un do ici maintenant. Voilà, et après tu passes à ton do. Do la main gauche. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire.
Ça sera différent quand je joue de l'orgue en fait. Ou du piano, enfin du clavier.
Il faut essayer d'imaginer qu'on fait.
C'est pour ça qu'essayer de penser à autre chose. Voilà, tu fais ça, puis je sais pas, tu dis bon, alors aujourd'hui je vais aller à Clémenceau, j'ai cours de maths, j'ai cours de physique, j'ai pas travaillé mon cours. J'ai une interro, machin. Enfin, tu vois, tu imagines un truc. Tu parles autre chose en fait. Bonjour. Au revoir, merci. Vous me faites faire un petit tour?
Eh bien, on y va.
Allez. Alors, on est dans l'église de Saint-Nicolas, qui date à peu près de 1848. C'est un style plutôt néo,
classique, néo-gothique. Voilà, c'est une imitation du style gothique. Donc c'est une église vraiment centrale de la ville de Nantes, puisqu'elle est au cœur de la vie active et la vie des Nantais. On ne peut pas passer à côté, hein, évidemment. Donc vous voyez évidemment la hauteur de cette voûte. Donc le cœur est donc là. Là, c'est où se passent toutes les cérémonies. Voilà, où le prêtre est ici, l'animateur, voilà, avec l'autel. Et derrière cet autel, ce premier autel, le deuxième autel, avant c'était donc l'autel qui servait, puisque les prêtres avaient le dos tourné aux fidèles, puisqu'ils étaient toujours devant le tabernacle. Maintenant ça a changé, puisque les prêtres sont face aux fidèles. Voilà. Vous avez le petit orgue de chœur qui nous sert maintenant pour animer les liturgies. Donc vous avez par contre au fond, si vous regardez bien, vous levez la tête, un instrument très imposant qui est le grand orgue de la basilique Saint-Nicolas, qui a été construit en 1962, voilà, qui est plus récent parce que en 1943 cet édifice a subi des dommages de guerre, puisqu'une bombe a explosé, qui a percé la voûte. Et tous les tuyaux ont été soufflés. Donc l'orgue a été détruit et on l'a reconstruit en 1963 en fait. Le soubassement, où il y a l'horloge là, tout ça c'est ancien, ça date de 1901. Et par contre la tuyauterie date de 1960.
D'accord, il a été reconstruit voilà. À l'identique.
Ah non, non. Moderne. Non. C'est ce qu'on appelle un néoclassique, c'est-à-dire un orgue un peu à tout jouer. C'est ce qui se faisait dans les années 60. On ne mettait pas une esthétique particulière sur un orgue, c'est-à-dire un orgue qui jouait que de la musique de baroque ou que de la musique romantique, c'est ce qui se passait hein, avant. Et là, c'est plutôt l'esprit de se dire, tiens, on peut tout jouer sur cet instrument. Voilà. Donc c'est un peu unique à Nantes d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas d'autres de cette grandeur de 54 jeux. Donc il y a à peu près 3000 tuyaux. Donc vous avez donc ça, c'est l'autel. Hein, voilà, c'est vraiment la partie importante. Tout le monde est tourné vers cette partie-là pour voir le prêtre. Voilà, et l'animateur doit se mettre par là-bas et l'organiste se met derrière ou en tribune quand l'orgue fonctionne.
Quand on rentre ici,
alors là
on
rentre dans le cœur.
Petit orgue.
Voilà, on est dans le petit orgue. Vous entendez la première chose que vous entendez, c'est, enfin, je sais pas si vous entendez avec votre micro, mais c'est le vent.
Tout à fait.
Parce que j'ai allumé l'orgue, donc la soufflerie s'est mise en route. Hein. Voilà. Et alors tout se passe dessous en fait. Hein. Il y a une trappe qui est ici, qui est fermée maintenant. Voilà, qui est ici. Donc c'est très profond. Hein. Donc maintenant ça a été fermé, avant c'était ouvert. Donc il y a un escalier qui descend comme dans un bateau en fait. Hein. Vous descendez et vous arrivez donc. Quoique je suis en train de penser que.
Est-ce qu'on peut rentrer dedans ?
Ben je sais pas. Je vais voir si c'est la bonne clé, mais je pense pas quand même. Peut-être pas exagéré, mais je pense que. On ne sait jamais. Regardez donc. Il y a de la chance. Hein.
Voilà.
Ouais. Après, je ne peux pas tomber dedans quand même. Hein.
Sur votre pied,
il va y avoir une. Voilà.
Je passe là ou pas ?
Voilà. Alors, donc, c'est comme ça. Donc, en fait, après, voilà, vous êtes dessous là. Et là, alors, je sais pas si vous voulez descendre, je sais pas s'il y a l'électricité là-dedans. Je sais pas. Mes clés sont tombées. Ah, c'est pas grave. Donc, voilà, l'intérieur de l'orgue, vous voyez.
Ah oui, donc c'est très, rentrer très dans l'orgue.
Ah ben, on est debout dessous. Hein. Voilà, si on peut y aller, si vous voulez. Hein. Mais il tombait pas. Hein. Donc en fait, ça, c'est le souffle de l'orgue. Et ce qui est intéressant, alors c'est un peu humide. Hein. Là, on est vraiment sous l'orgue, vous voyez. Donc là, vous avez la partie qui est un peu percée d'ailleurs. Hein. On entend que c'est que ça souffle. Donc là, il y a déjà eu des rustines qui ont été vous voyez, colmatées. On sent l'air là, vraiment. Là, il y a une fuite. Vous voyez la fuite là ? Là ? Vous voyez là ? Là, il y a une fuite. Je vais la réparer. Et vous avez toujours ce double système qui est intéressant. C'est-à-dire que quand l'électricité faisait défaut, bon là on est en 1900, hein, voilà, donc il n'a pas bougé celui-là, hein, c'est du costaud quand même. Et il y avait ce qu'à l'intérieur de l'orgue, il y avait un souffleur. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui descendait et qui se mettait en position comme ça, voilà, et qui pompait en fait, bon là c'est coincé, et qui pompait et qui passait, voilà, pour essayer d'envoyer de l'air dans les tuyaux. Vous
voyez, c'est très sportif en fait.
Voilà, donc cette personne-là, vous imaginez un peu, elle était dans le noir avec sa chandelle peut-être, et puis elle soufflait, elle faisait ce mouvement-là avec les pieds pour envoyer de l'air, voilà, dans l'air, dans la soufflerie qui est ici.
C'est comme soufflet. Ça que ça se passait quand il n'y avait pas d'électricité.
Et voilà, exactement.
Donc ça ressemble un petit peu à ces machines qu'on utilise pour faire du sport en salle.
Ah oui, bah c'est certainement
en plus. C'est en bois et c'est beaucoup plus gros.
Donc voilà le soufflet. Vous voyez, on peut. Et toute la partie mécanique des claviers et tout ça, et du pédalier est ici en fait. Hein. Vous voyez là, tout ce qui est la mécanique est là en fait.
Oui.
Voilà.
Super.
Donc on est dans les entrailles de l'orgue. Vous voyez qu'on tient debout.
C'est un peu humide quand même.
Voilà. On
ne
peut pas que quelqu'un nous enferme parce qu'on serait mal. Alors on va sortir.
Moi, ma première question, c'est mais où se cache la personne qui fait de l'orgue et pourquoi est-elle cachée?
Le but, c'est pas de la voir, c'est de l'entendre en fait. Oui, la voir en fait, nous on n'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est d'entendre le son de l'orgue. Puis de toute façon, quand on est en tribune tout là-haut, de toute façon, on ne verra pas en fait. Vous voyez, on voit pas l'organiste. Alors on peut le voir en situation de concert. Hein. Il y a parfois des consoles qui sont mobiles. La console reliée à un câble, on peut la mettre devant, mais là c'est pour le concert. Mais sinon, on n'a pas à se mettre en avant. Voilà, on est la petite main derrière qui va faire que la cérémonie va être embellie avec notre toucher, la façon de jouer en fait. Voilà. Et en fait, l'organiste, les gens s'imaginent même pas qui c'est en fait. Voilà, souvent on dit ah c'est vous l'organiste. Voilà, parce que on est un peu dans l'ombre et puis on est dans notre coin. Alors là on est un peu plus exposé parce que vous avez vu il y a une grille voilà. Et quand on est en tribune ou même à Sainte-Croix ou à Bonport, personne ne voit quoi. Non, personne ne voit. Et c'est bien d'ailleurs aussi.
C'est une manière de sublimer la musique.
Oui, on n'a pas besoin de. Voilà, l'essentiel c'est de voir l'instrument, enfin de l'entendre en fait. Hein. Même le voir n'est pas utile. Hein. Il y a certains orgues qui sont carrément, qui n'ont pas de buffet, ils sont carrément dans les stalles, c'est-à-dire dans le mur, on voit les tuyaux sont à l'intérieur, on ne les voit même pas. Donc le but, c'est. Après, ça peut être un instrument évidemment esthétique. Quand vous voyez l'orgue de Saint-Nicolas ou de. Vous voyez que c'est beau, enfin voilà, enfin, c'est beau parce que je suis organiste, mais je trouve ça beau. Vous voyez, quand vous voyez un grand orgue comme ça, c'est quand même assez fascinant de voir ce truc accroché comme ça, comme un espèce de nid de coucou, un nid, vous voyez, ça fait un peu ça, qui est accroché au mur. C'est quand même, on se dit, c'est quand même fascinant de se dire comment on fait un truc pareil, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est un instrument, c'est un instrument assez fascinant, extraordinaire. Et puis toutes les sonorités qu'on peut émettre avec un orgue, c'est quand même assez magique. Quoi.
C'est ça, moi je me suis dit j'avais l'impression qu'il y avait tout un orchestre qui jouait, en fait, c'est un instrument.
Quand on dit que l'orgue est un orchestre, oui, parce qu'en fait, vous avez des familles d'instruments. Alors vous avez la famille d'abord de ce qu'on appelle les fonds. Les fonds, c'est les montres, les flûtes, ça serait, on va dire, l'alto et la famille de violon, toutes les cordes, en fait. Voilà, ça, c'est la base de l'instrument. Et vous voyez que c'est assez important, parce que ici, la base de l'instrument, c'est pratiquement... Tout ça, ce sont des fonds, en fait.
Ouais. Donc les fonds, ce sont les pistons hein, qui sont placés au-dessus du clavier.
Alors, ils ont des couleurs différentes. Vous avez les verts, c'est pour la pédale, puisqu'on joue avec nos pieds. Ils imitent la contrebasse et le violoncelle, en fait. Voilà, c'est pour faire les basses. Voilà,
d'accord.
Voilà. Après, vous avez donc... Ça, c'est pour la partie du grand orgue, qui est le premier clavier, qui est ici. Voilà. Donc, vous avez un 16 pieds. Les numéros qui sont là, c'est la taille du tuyau. Donc, plus le chiffre est gros, plus le tuyau est grand, donc plus il est grave. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est grave. Vous voyez ? Voilà. Si je mets un 8 pieds, ça va monter une octave au-dessus. Alors, celui-là, il est un peu fort. On va mettre celui-là. Vous voyez ? Si je mets un 4 pieds, ça va faire encore une octave au-dessus. Je mets deux pieds, encore une octave au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est la base des fonds, c'est celui-là. D'accord ? Voilà. Je retrouve la même chose au deuxième clavier. C'est les rouges. Tout ça, c'est le deuxième clavier, ce qu'on appelle le positif. Alors, vous avez une flûte harmonique hein, qui est en 8, voyez ? Qui veut imiter la flûte, en fait, la flûte traversière. Vous en avez une qui est beaucoup plus douce que le corps de nuit. Vous voyez, qui est plus doux. Voilà. Et après, vous avez donc ces jeux-là qui sont des ondulants, qui font des sons un peu que j'ai. Vous voyez ? Ça, c'est typiquement romantique. Vous voyez ?
Et vous avez, pour vraiment imiter l'orchestre, vous avez un sabot qui est ici à mon pied. Et en fait, je vais ouvrir la boîte et je vais la fermer. Et à l'intérieur, vous avez une espèce de persienne qui s'ouvre et qui se ferme comme un volet. Donc quand je ferme le volet, ben, c'est moins fort. Quand je l'ouvre, c'est plus fort. Voilà, tout bêtement. Vous voyez, c'est jaune.
Ça permet de nuancer le jeu.
Exactement, tout à fait. Alors, oui, bon, on peut faire cette impro, pas bien. Ah, c'est un métier, hein. C'est pas. Alors dans les, voilà, quand vous êtes dans les campagnes ou autres, voilà, c'est pas des professionnels, voilà. Mais sur les grosses paroisses comme ça, voilà, c'est des ils prennent uniquement des professionnels, qui ont fait des études, qui ont passé des concours, qui.
Voilà. J'imagine qu'il y a des temps de répétition qui se font avec l'animateur pour.
Alors, enfin voilà, moi ça fait quand même 27 ans que je fais ce métier. J'arrive toujours entre 15 et 20 minutes avant la messe, hein, voilà, pour voir avec l'animateur et le prêtre le déroulement de la messe, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut ça, de voir si on est d'accord sur les chants, si on est d'accord sur telle intervention, si voilà, le prêtre regarde, il dit qu'est-ce que tu me donnes comme doxologie par exemple, et on se met d'accord en fait. Il y a toujours un moment où on doit se voir en fait. Voilà, surtout quand je suis en tribune, une fois que je suis montée, c'est fini. Hein. Moi, la messe, elle démarre. Et puis je file quoi en fait. Mmh. Voilà, d'accord. Après, il y a toujours quand même les téléphones portables. Alors ici, il y a la petite caméra et là-bas, il y a aussi une petite. Il y a une glace qui permet de voir voilà, ce qui se passe. Et il y a un retour son. Ouais. Là aussi, c'est pareil, il y a un retour son. Parce qu'évidemment, quand on est là, moi j'entends que l'orgue, j'entends pas l'animateur. Donc il y a un retour son qui nous permet d'entendre et de voir en fait. Ça, c'est vraiment important. Après, comment il faisait en 1900 ou même à l'époque de Bach, ça, pour jouer, c'est vrai que sans entendre ni voir. Je pense que de toute façon, c'est le chef d'orchestre de la cérémonie, c'est l'organiste en fait. En fait, on va donner tout, un chant d'entrée, on va donner les grands jeux pour de dire ah bah, attention, ça y est, on chante avec plein d'élan. Un chant de communion, c'est beaucoup plus intime, donc on va jouer des jeux beaucoup plus modestes, voilà, beaucoup plus recueillis. Et en fait, on donne le dynamique de la. Voilà.
Donc finalement, il y a une grande part de votre émotionnel qui est lié à la cérémonie et de ce que vous donnez à ce moment-là.
Tout à fait. Voilà. Ah oui, tout à fait. Hein. C'est très personnel en fait l'accompagnement et l'improvisation et la façon de donner la note, donner l'introduction, de conclure, d'improviser, de réagir aussi parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de blanc. Et en fait, on ne se rend pas compte tout ce que ça engendre d'être organiste. Ça engendre en fait une multitude de connaissances, bon évidemment sur l'instrument, sur la musique. Faut lire très vite la partition parce que on la déchiffre pas le jour de la messe. Hein. Voilà, faut que ça soit naturel. Bon, moi je lis la musique depuis l'âge de 5 ans, donc évidemment ça fait quand même. J'ai toujours lu, j'ai pratiquement lu la musique plus vite que la lecture des livres en fait. Hein, voilà, parce que je suis issue d'une famille de musiciennes. Mon arrière-grand-père était compositeur, hein, Paul Laniro. Il y a une place à Nantes d'ailleurs. Et donc, c'était. Il a composé beaucoup de musique, et donc, c'était logique que ma mère me pousse à faire de la musique obligatoirement, et j'ai commencé tout de suite le piano, en fait. Hein. Voilà, et puis j'ai continué, et je suis passée à l'orgue à 13 ans, et puis j'ai continué, j'ai jamais lâché cet instrument depuis. Voilà, même si je lui fais quelques infidélités, puisque je me suis mis au tuba, vous voyez.
n'étais pas au courant. Et ce qui me permet d'être dans un orchestre, notamment l'orchestre d'Orvault, l'orchestre d'harmonie. Donc en fait, je me retrouve en groupe à jouer. Et ça, c'est vrai que l'organiste est très solitaire, en fait. Hein. Il a besoin de personne, mais en fait, voilà, il ne joue pas un orchestre, vous voyez.
Vous avez ressenti le besoin quand même de revenir vers du jeu plus collectif et de partager la musique avec ouais, d'autres gens, ouais, ouais. Finalement.
Alors, je la partage en tant évidemment que chef de chœur. Hein. Et j'ai monté aussi pas mal de groupes. Je joue avec le trio L'Admiro. Donc, c'est un trio qui a pour but quand même de jouer de la musique du fin 19e, de la musique de notre arrière-grand-père que je transcris. Voilà, pour la faire connaître, parce que ben, nul n'est prophète. Mais voilà, il faut jouer à plusieurs en fait. Hein. C'est le but d'être tout seul à sa tribune. C'est un peu tristoune quand même.
Spontanément, et je me suis dit, mais non, c'est une femme, c'est super. Il y a beaucoup de femmes qui font ce métier-là?
Non, c'est un instrument quand même. Alors, ça vient, il y en a quand même beaucoup plus, mais ça a toujours été un instrument très masculin. Voilà. La première femme qui a percé, c'est Marie-Claire Alain, c'est dans les années 1950. Vous voyez, 60, voilà, les premières femmes vraiment à s'imposer, et ayant des tribunes, c'est-à-dire des orgues importants, quoi. Donc, non, c'était un orgue, c'est vraiment. Et d'ailleurs, vous voyez ici, par exemple, Monsieur de Bière a construit cet orgue pour un homme. Vous voyez, parce qu'en fait, le banc ne bouge pas. Donc en fait, il faut être grand, parce que déjà là, quand je suis comme ça, moi, je suis déjà au maximum, vous voyez, mais je ne peux pas. Alors si j'avais le banc, je le rapprocherais, vous voyez, et puis du coup, je serais plus à l'aise. Mais là, en fait, je ne suis pas du tout à l'aise, parce que je suis le bras tendu, parce que je suis petite, et j'ai des bras trop courts, en fait, tout bêtement. Voilà, et en fait, il a positionné son banc pour un gars qui fait 1m70 ou 1m80, et puis qui a des grandes paluches. Voilà, c'est tout. Et on voit dans les partitions du 19e, c'est exactement pareil. Des fois, il y a des accords à placer. Ben moi, je n'ai même pas la main pour le faire. Enfin, alors on bidouille. Alors on est comme ça, faire la note avec l'autre main. Voilà. César Franck, par exemple, il y a des pièces de César Franck. C'est, pour les petites mains, c'est injouable, en fait. Donc, c'est quand même un instrument voilà, plus masculin que féminin. Et il y a une majorité d'hommes, quand même, que de femmes. Bon, faut s'imposer. Hein. Bon, après, j'ai un fort caractère. Et je sais ce que je veux, donc je. Bon, voilà, je pense que j'ai fait ma place et voilà, j'assume et les autres aussi me respectent en tant qu'organiste. Voilà. Pourtant, on dit de belles orgues ou de beaux orgues. Vous voyez, c'est un peu hybride. On peut dire masculin et féminin l'orgue. Hein. On peut dire de belles orgues, hein, voilà, ou un bel orgue.
Une orgue ou un orgue.
Voilà, exactement.
Donc ici, ce sera une
ou des orgues. En fait, c'est un peu, un peu tout l'orgue.
Moi, j'ai toujours rêvé de pianoter sur un orgue. Est-ce que c'est possible
si vous voulez, oui, tout à fait.
De toucher.
Après, je vais vous quitter. Voilà. Bah, je vais vous mettre.
Alors, qu'est-ce que je fais?
Eh bien, vous jouez là.
Je joue sur les touches.
Voilà.
Il dit au pied, chaque touche, chaque oui, oui. Ça c'est les dièses et les bémols.
Voilà.
Ça c'est un do. Voilà. Juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au type de cérémonie, la place à l'improvisation, et je me suis pas mal questionnée sur l'accompagnement des personnes, notamment pendant les funérailles, pendant les mariages.
Oui, tout à fait, il y a ça aussi.
Et je me suis questionnée en me disant, voilà, est-ce que l'organiste aussi fait partie de cet accompagnement-là, et quel est son rôle dans ces moments forts, en fait,
tout à fait,
que partagent les familles.
Ah oui, tout à fait, on ne fait pas que les messes du week-end, et je fais fais les sépultures et je fais les mariages. Alors les mariages, il y en a de moins en moins quand même. Les sépultures, il y en a toujours autant. Puisque bon, voilà, les gens ont peut-être besoin quand même de passer par l'église, même si c'est une bénédiction, il n'y a pas de prêtre, mais ils ont besoin de passer par l'église quand même pour enterrer leurs défunts et faire le deuil. Ça les aide. Donc il peut y avoir des sépultures très émouvantes, surtout quand c'est des enfants, quand c'est des bébés, quand c'est des familles entières. Donc il y a des moments dramatiques quand même. Hein. Il y a vraiment des cérémonies assez douloureuses. Il y a des cérémonies très belles, très priantes.
Voilà. Alors vous là-dedans, comment vous placez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous donnez à ces personnes-là en tant que musicienne?
Je leur donne en fait une touche de beauté sur la cérémonie, en fait, parce qu'ils vont entendre de la musique, c'est quand même mieux que de mettre un CD. Donc en fait, ils vont entendre, d'abord les chants vont être accompagnés, parce que sinon l'animateur est tout seul à chanter, c'est quand même dur. Donc là, il y aura un soutien de l'orgue qui va être là pour accompagner les chants. Et puis s'ils veulent des morceaux particuliers, en fait, je suis là pour leur faire plaisir et essayer de leur faire rendre ce moment moins douloureux et plus priant aussi. Et des fois, on a des petits mots gentils des gens qui sont là et qui nous envoient un petit mail après. Merci, c'est vraiment très gentil, on a apprécié. Bon, voilà, ça fait plaisir. Hein. On est au service, en fait. Hein. Voilà. Bon, après, c'est mon métier. Hein. Voilà, je veux dire, voilà. Mais voilà, on ne peut pas faire ça, ce métier-là, si... Bon, est-ce que je suis croyante ou pas, ça serait peut-être un autre débat. Hein. J'ai tout ce qu'il faut, voilà, je suis baptisée, j'ai fait tout ce qu'il faut dans l'ordre, comme on dit. je m'amuse en disant ça, première communion, profession de foi, voilà, bref, confirmation. Mais après, bon, j'ai un regard sur les cérémonies, on va dire, un peu plus... avec plus de recul peut-être que d'autres. Vous voyez, je suis derrière mon orgue et j'ai du mal à aller, par exemple, à la messe si je joue pas. Pour moi, si je vais à la messe, je joue, quoi. Voilà. Disons que je vais pas y aller naturellement pendant les vacances, par exemple. Je vais jamais, quand je prends des vacances, je ne vais pas à la messe, par exemple. Ou si j'y vais, c'est pour aller voir l'orgue, c'est pour aller voir... parce que je vais regarder, je vais dire comment il joue celui-là. Enfin, bon, je vais pas... voilà, c'est vraiment la pause. Voilà. Alors, c'est peut-être que je fais tellement de cérémonies que... voilà, j'ai besoin aussi de me dire que non, on n'en fait plus, quoi. Voilà, je coupe tout, je fais pas d'orgue, je fais rien en fait, hein, voilà. Mais après, bon, je suis plus fascinée par le lieu et la paix qui se dégage d'un lieu comme Saint-Nicolas, Bonport, où il y a un calme, c'est reposant en fait. Alors surtout quand je suis en tribune toute seule là-haut, voilà, même quand on y va le soir, quand il n'y a personne, c'est fermé, enfin, c'est magique, quoi, d'avoir ce lieu tout seul, voilà, c'est... On est là, on est tout seul, il y a une espèce d'acoustique, il y a une ambiance particulière et je trouve ça très planant et reposant en fait. Voilà, ça vaut tous les psys du monde. Ça m'apaise en fait. Voilà, je trouve que ça me pose et puis je suis là et puis j'écoute l'instrument et puis je dialogue avec lui, je le fais marcher. Je les pratique depuis, je vous dis, ça fait 27 ans quand même que je suis là, donc je les connais par cœur en fait, ces instruments. Et j'espère que vous avez découvert l'orgue.
Ouais.
Bon, écoutez, alors merci.
Merci voilà. À vous. C'était...
Je file, je peux fermer.
Allez, je vais rester un petit peu dans l'église. Voilà.
Et puis, je vous dis, bien.
Oui.
C'était « Cordes sensibles », deuxième épisode, un reportage de Pauline Frémaux avec pour invité Florence Ladmiro, musicienne épicurienne et organiste affirmée. Le morceau que nous écoutons maintenant est une composition de son arrière-grand-père Paul Ladmiro, intitulée « Sonate en Ré » et interprétée en 1959 par Cécile Housset au piano et Maurice Maréchal au violoncelle.